Vous écoutez
RMC. RMC. Le Mosca
Zap.
Alors, les deux matchs en retard d'hier ont mis fin aux illusions de deux clubs pour l'Europe, l'OM et Nice. Nice battu à domicile par un PSG peu fringant, mais donc du coup Nice ne peut plus se qualifier pour la Ligue des Champions. Et l'OM a de nouveau perdu à l'extérieur, ce qui rend ses chances de qualification Ligue Europa infimes. Alors c'est encore possible mathématiquement, mais il faudrait que les deux clubs devant perdent leur dernier match et que eux s'imposent au Havre. Jean-Louis Gasset était dépité après cette défaite à Reims.
Un sentiment de honte. Une fois de plus, l'équipe n'a pas été à l'extérieur à la hauteur de l'Olympique de Marseille. On avait l'occasion d'ouvrir une porte pour l'Europe en restant un match dimanche. Une fois de plus, on a été mauvais.
Voilà, mauvais.
Dépité.
Ouais. Le constat est terrible, hein. Eric,
ça fait l'appel. Vas-y, Eric, vas-y.
Non, mais tu vois, ça hier quand on parlait de ce match-là, lundi d'ailleurs, où tu disais, ouais, mais les mecs ils sont en claquettes, ils sont en vacances, mais non, mais ici.
En parlant de Reims.
Mais oui, mais tu gagnes pas comme ça en Ligue 1 à l'extérieur, surtout quand tu as pas gagné de l'année, et quand tu es l'OM, ben les mecs en face, mais pas que l'OM, d'ailleurs Paris c'est pareil, Lyon c'est pareil, les mecs en face ils se dépouillent et ils ont fait un bon match Reims hier soir.
Est-ce qu'ils ont fait un bon match ou c'est Marseille
L'OM a été au niveau de sa saison à l'extérieur. Quand on faisait le débat il y a deux jours, on ne tenait pas compte de ce que fait l'OM depuis le début de la saison à l'extérieur. Et même quand tu joues contre une équipe démobilisée, il y a un truc. Alors, je sais pas, parce que je me demande si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ligue 1 qu'une équipe soit aussi nulle à l'extérieur, c'est-à-dire dans les dernières, puisque l'OM est dernier à l'extérieur. Et à domicile, devant, puisque je crois qu'ils sont à égalité de points avec Lille. C'est-à-dire que dans le classement à domicile, l'OM est devant Paris, est à égalité avec Lille. Lille peut passer devant parce qu'ils ont le dernier match chez eux.
L'OM, Milanais, a fait l'inverse, quoi. Premier à l'extérieur et dernier à domicile.
Tu crois premier, dernier comme ça, toi? Moi, j'y crois pas. Hein. Je crois pas que ça existe. Une équipe qui a perdu qu'un match à domicile et qui a gagné que deux matchs à l'extérieur. Je sais pas si ça existe dans le football. Et il faudra m'expliquer psychologiquement qu'est-ce qui se passe pour que ça arrive, surtout contre des équipes plus moyennes, quoi. Parce que tu vas perdre à Lyon, à Lille, à Paris.
Mais vous parliez souvent on parle d'interrupteur, tu sais, allez, c'est la dernière ligne droite, on va tout défoncer. Mais à un moment donné, il y a une réalité sur une saison. C'est que ce qui s'est passé hier pour l'OM à Reims, c'est la réalité de la saison des 10 derniers mois de l'Olympique de Marseille, qui, je rappelle, sur les 10 déplacements dans le top 10 de Ligue 1, n'a pas gagné un match, je parle pas un match nul, n'a pas battu à l'extérieur une équipe du top 10, je crois. Ils ont mis 3 buts sur 10 matchs à l'extérieur contre les équipes du top 10 de Ligue 1.
Les deux victoires, c'est qui? C'est Clermont
et Lorient, non? Non, Clermont
possible. Ça doit être.
Mais hier l'OM, je te dis pas qu'ils sont nuls hier.
On pourrait demander à Adrien, non?
Oui, Adrien, on a la réponse.
Le problème, c'est que. On pourrait lui demander, non, quand même.
J'ai peur qu'on parte à vacances et qu'on n'ait pas la réponse.
Rendez-vous en septembre.
Mais le match d'hier. Le match d'hier, il n'est pas nul de l'OM. Il est à leur niveau, il y a eu du déchet technique. Tu te rappelles les contrôles américains que tu disais toute l'année? Eh ben hier, tu en as vu des contrôles américains.
Des occasions ratées, contrôles canadiens.
Il y a une stat qui est folle aussi, c'est quand Pierre-Emerick Aubameyang ne marque pas pour l'OM, l'OM ne gagne pas un match.
Il a mal au ventre.
Ça veut dire que la saison de l'OM européenne et même la saison la 8e ou la 7e place, il faut serrer la main, il faut mettre une statue à Pierre-Emerick Aubameyang.
Ça confirme que tu fais le demi-finale en vérité avec une équipe nulle. C'est tout. quelle valeur a cette Europa League? Tu te le demandes, demi-finale avec une équipe bidon.
La campagne à Ligue Europa, en réalité, elle reflète ce qu'ils ont fait cette année en championnat. Puisque ils sont allés en prendre, combien ils en ont pris? 3 à Villarreal?
4, non?
3, ça fait 3-1, mais rappelez-vous, on a peur, mais ils se font rouler dessus. Par contre, ils gagnent à domicile. Pareil, contre Benfica, pendant une heure, tu es en grande difficulté. Tu as ce but qui te maintient en vie et au retour, tu vas au pénalty, tu gagnes ce match pour pouvoir aller au pénalty. En réalité, il s'est passé ça toute l'année, sauf que ça a basculé du bon côté chaque fois. Mais en réalité, c'est exactement c'est bon, le profil de l'OM à l'extérieur et à domicile de l'année.
Et alors pour Nice, donc il y aura pas de Ligue des Champions. En revanche, ils seront en Ligue Europa et le club est très confiant pour sa participation en Ligue Europa malgré le problème de multipropriété puisque Ineos désormais est aussi propriétaire de Manchester United. A priori, il n'y aura aucun problème pour disputer la Ligue Europa. En tout cas, c'est ce que le club fait savoir.
Mais il faut que ça
devienne un rôle l'un contre l'autre.
Ils ont trouvé une solution, on va dire technique.
Oui, parce que Giron a le même problème avec City, et donc City se désengage de. J'ai vu là, je sais
après,
pas.
Après, il y a aussi des montages.
C'est un montage. Il faut une sorte de
Toulouse
pouvoir.
Toulouse avait le même problème avec Milan, et ça s'est réglé. Hein.
Voilà.
On zappe la Ligue 1, pas tout à fait, puisqu'il faut quand même dire que ces deux résultats font que Brest sera au minimum quatrième en Ligue 1, et donc passera par un tour préliminaire de Ligue des Champions au pire, et au mieux, ils peuvent encore être directement qualifiés. Il faudrait pour ça faire mieux que Lille lors de la dernière journée. Lille reçoit Nice et Brest se déplace à Toulouse. Est-ce que le miracle est encore possible? Est-ce qu'une troisième place, on y croit encore, Vincent?
Non.
Non, tu ne crois pas?
Ah ben quand même que Lille puisse faire après Nice il faut arrêter de dire ça, ils jouent plus rien. Nice est une équipe capable de faire déjouer Lille et de leur gratter un point.
Marseille jouait quelque chose, ils ont rien fait,
voilà, c'est ça.
Alors tu peux t'attendre que quand tu joues rien tu fasses encore moins bien, quoi, tu vois. C'est des raisonnements qui ne sont qu'humains et logiques normalement, et quand tu comprends rien entre
Lille une meilleure équipe que l'OM.
Oui, aussi.
Oui,
aussi. Ils ont mais peut-être que Nice est une meilleure équipe que Reims aussi. Ça veut rien dire, ça. Sauf que le coup, parce que ça nous explique une équipe qui joue rien. C'est mais non, mais
souvent quand même. Eric, j'explique rien. Une équipe qui est dans le ventre mou qui joue rien. Rappelle-toi les équipes qui gueulaient parce que justement le PSG ne venait pas au complet et que après ça allait. Tu vois, à un moment donné, c'était une question d'injustice dans le championnat, parce qu'une équipe qui joue rien, qui est dans le ventre mou, en général, elle est quand même plus jouable, même si t'as pas gagné à l'extérieur, c'est quand même plus jouable.
Après, Vincent, t'as deux façons différentes des équipes qui jouent plus rien. T'as les équipes qui avaient des attentes hautes et qui sont finalement au milieu de tableau, qui jouent plus rien, et c'est une déception, et là, peut-être que les équipes ont lâché, ou t'as les équipes qui sont qui étaient partis pour être légales et qui sont 12e, 13e, et qui justement sont dans une bonne confiance et déroulent sur la fin de saison avec l'envie de jouer au football. Donc c'est différent.
Et la quatrième place, si c'est pour Brest, c'est tour préliminaire et barrage.
Et barrage.
Tu as tout à passer, c'est le parcours du combattant pour
Monaco. Parce que Monaco n'a pas réussi, que l'OM n'a pas fait.
Pour le stade. Hein. Guingamp, c'est la proximité. Rennes, il y a plus de monde dans le stade. Donc ils ont pas.
Non, mais sur la dernière journée, ça va jouer. Alors Lille, logiquement, devrait gagner contre Nice, mais attention. Attention.
C'est pas gagné, le déplacement à Toulouse.
Et à Toulouse, et c'est compliqué aussi parce que, comme disait Steve, il y a souvent des équipes qui ont joué la relégation toute l'année. C'est-à-dire, quand tu joues sous pression, que tu joues pour pas descendre, ben, tu fais des mauvais résultats, tu galères. Et d'un coup, tu es libéré. Et les derniers matchs, les deux ou trois derniers matchs où tu es sûr que tu es sauvé, d'un coup, on se rend compte que les mecs, quand ils sont libérés, ben, ils jouent mieux et puis ils emmerdent tout le monde. Donc, c'est ce qui peut se passer pour Toulouse, là aussi.
On zappe la Ligue 1. Ce soir, il y a une liste importante. Didier Deschamps, 20h, la liste pour l'Euro. Mais il y a deux autres listes qui sont attendues. Celle-ci pour les Jeux Olympiques en basket. Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane. Donc, une première liste pour les JO qui ne sera pas la définitive puisque ce sont des listes élargies. Pas forcément beaucoup d'enseignements. On va quand même surveiller quelques noms, Stephen. Chez les garçons, on va vérifier que Nando De Colo, Franck Ntilikina, voire Eli Okobo, ils sont ou pas, parce que leur présence aux JO est hypothétique. Chez les filles, Sandrine Gruda également. On va savoir peut-être dès ce soir, enfin, dès tout à l'heure à 17h15.
Ouais, alors chez les garçons, par rapport au fiasco qui s'est passé l'été dernier à la Coupe du Monde, là, Vincent Colli va faire une liste élargie. l'énergie, parce que sur le poste de meneur de jeu, il n'y a aucune certitude, puisque Thomas Hurtel, définitivement, est blacklisté et banni de l'équipe de France, du fait qu'il joue en Russie au Zénith Saint-Pétersbourg, et qu'il n'y a aucun meneur de jeu qui se dégage. Tous les mecs étant NBA, ont soit pas joué, ciré le banc, soit ont vu leur contrat rompu. Je pense à Théo Malédon et Kylian Hayes. Donc, il devrait vraisemblablement y avoir 5 ou 6 meneurs de jeu, et ils vont se tirer la bourre sur la prépa pour gagner leur place concurrence. Ouais. Et Nando Docolo devrait faire partie de ces joueurs-là, puisque Nando a vécu une saison compliquée avec l'ASVEL, beaucoup de blessures, commence à être un petit peu sur la jambe défensivement. Alors, ça reste un joueur hors norme, mais il y a une incertitude sur la présence définitive dans les 12 aux Jeux Olympiques pour Nando.
Est-ce qu'il va y être Nando à la fin?
Je sais pas, il va falloir.
Ouais, Hurtel, c'est mort.
Et Hurtel,
nous on se tire une balle dans le slip, ah ouais. Normal quoi, c'est comme
qui,
ça.
Qui c'est qui prend la décision? C'est la Ligue ou c'est le gouvernement?
C'est la Fédération française qui, il y a deux ans, avant l'Euro, avait fait signer une charte avant de partir à l'Euro, qui stipulait que les joueurs s'engageaient à ne pas rejoindre un club russe.
Ça, c'est la Fédé qui avait
mis en place cette charte et que tout le monde avait signé, dont Thomas Hurtel. Et après l'Eurobasket où Thomas avait été très bon, on a appris qu'il avait signé au Zénith Saint-Pétersbourg. Mais le problème, c'est que c'est parole contre parole, puisque Thomas Hurtel a accusé la Fédération française de basket de dire tout le monde était au courant, cette charte c'est bidon, tout le monde savait que j'allais au Zénith Saint-Pétersbourg, et on m'a dit signe là, on verra après. La Fédé se défend en disant non, on n'était pas au courant. Donc voilà.
Parole contre parole,
guerre ouverte.
Donc ça les a arrangé de le virer.
Non, c'est un joueur très important sur le poste de
meneur de jeu. Oui, c'est pour ça.
C'est une histoire mal gérée en fait.
C'est une histoire très mal gérée, très compliquée. Bon,
comme Joel Embiid en fait.
Un petit peu.
Chez les filles, Sandrine Gruda,
chez les filles, on sent c'est une passation de pouvoir. Je pense que c'est place à la jeunesse et vraisemblablement, on peut le dire, Sandrine Gruda ne fera pas les Jeux Olympiques 2024. Elle qui est la joueuse la meilleure scoreuse de l'histoire de l'équipe de France, 2 médailles olympiques avec les braqueuses à l'époque et puis à Tokyo, 7 médailles de bronze. Place à la jeunesse et Sandrine Gruda ne sera pas aux Jeux Olympiques.
Mais au basket, quand même, curieux.
Sandrine qui a vécu une saison compliquée, hein, énormément blessée, en deçà de ses standards de la grande joueuse qu'elle a été.
Ouais, une préparation, tu peux imaginer qu'elle soit.
Ouais, mais est-ce que c'est une préparation de 2 mois où tu as envie de faire des gros entraînements, des séances compliquées, un peu de physique, 2 entraînements par jour, est-ce que Sandrine est capable de s'en se péter, d'assumer ça? Écoute, c'est un choix. On n'a pas envie les sélectionneurs n'ont pas envie de faire la tournée des Rolling Stones, ce qui avait été le cas en 2016 à Rio, c'était mal passé chez les garçons, il a envie d'avoir un peu de sang frais. Voilà.